Bienvenue au cœur du tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. Le tourbillon, c'est le symbole du mouvement, d'une jeunesse qui s'interroge, se révolte, se lève, s'active, par le biais de la création et de la culture. Mais d'où vient cette nécessité de créer du beau, de créer du lien? J'accueille ici à mon micro des visages de cette jeunesse culturelle en lutte, pour nous confier leurs envies, leurs doutes, leurs rêves, leurs peurs face à ce monde qui s'effondre. Venez ici écouter cette jeunesse qui nous implore, comme le disait si bien Nina Simone, « S'il te plaît, ne me laisse pas incomprise ». Bienvenue au cœur d'une jeunesse artistique en mouvement, bienvenue dans le tourbillon. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. Nous sommes le dimanche 4 janvier et en ce tout début d'année, nous nous retrouvons dans une toute petite pièce remplie de matériel technique au sous-sol d'une salle de spectacle d'un campus villeurbanné. Alors si ce décor n'apparaît pas très reluisant, il compte beaucoup parce que pour certains d'entre nous, beaucoup de choses ont commencé ici et notamment pour notre invité. Je suis comme toujours avec mon super binôme et technicien Elio et aujourd'hui nous accueillons Margot. Bonjour Margot.
Bonjour.
Margot, je l'ai connue, comme beaucoup, au milieu de festivals et d'espaces créatifs. De ces endroits où, portés par les liens amicaux, la fougue de la jeunesse et l'illusion de tous les possibles naissent de belles histoires artistiques. Et depuis, elle en a fait son métier. Elle est comédienne, réalisatrice, scénariste et même metteuse en scène. Cofondatrice de la compagnie Inclassable et de leur pièce jeune public L'Ours, elle fait aussi partie du duo de réalisatrices de courts-métrages Les Deux Ardentes. Alors c'est un plaisir de vous présenter ma tendre amie et lumineuse artiste, Margot. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, Margot ?
Oui, merci Marwa pour ta présentation. Eh bien, tu l'as déjà pas mal fait. Du coup, moi, j'ai commencé la vie d'adulte à l'INSA, dans la section théâtre-études. J'ai eu mon diplôme et après, j'ai décidé que c'était pas possible. Et on est nombreux, nombreuses. En vrai, pas tant, mais... On est tous ensemble, donc on a l'impression de faire masse. Et du coup, en sortant de l'INSA, j'ai repris une formation de théâtre à Aix-en-Provence pendant un an. Et à la sortie de cette formation-là, on a créé du coup la compagnie Inclassable, qui est notre petit bébé à Noémie et moi.
Noémie, qui est une autre fille de théâtre-études qui a aussi fait cette formation avec toi.
Tout à fait. Et ma binôme de toujours, car je l'ai rencontrée à l'INSA le premier jour.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Donc voilà, et là ça fait 2 ans presque et demi que je suis à fond dans ce projet-là et un autre projet du coup que tu as cité aussi de réalisation, écriture, etc. J'ai la voix cassée.
Et pourquoi tu as commencé le théâtre ? Comment c'est arrivé à toi ?
Le théâtre, en fait ça me fait rire parce que chaque fois que j'entends des interviews, je vois des gens qui disent « ça me vient depuis toute petite, à 4 ans, je faisais déjà des trucs de zinzin ». Et en fait, moi, pas trop. Et je suis plutôt de l'autre côté, des gens qui étaient plutôt timides et très scolaires pour le coup. Et j'ai commencé au lycée, en option. Et en vrai, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'étais très... très scientifique, j'avais des très bonnes notes et ça m'a vraiment libérée quoi. Donc là, on est sur un truc pas très original, mais ça m'a permis vraiment de me rendre compte qu'il y avait d'autres choses que l'école et que c'était ok. Donc c'est venu du lycée et après j'ai grandement choisi l'INSA Lyon parce qu'il y avait une section théâtre, on va pas se mentir. Donc ça m'est venu de là et je pense que ça me vient. Ça a grandi grâce aux gens que j'ai rencontrés dans le théâtre. Au-delà de la passion de l'art, etc., c'est vraiment des rencontres, pour le coup, où genre, mes amis de section théâtre du lycée, je les garde vraiment précieusement dans mon cœur. Quoi.
Ça va au-delà du jeu, quoi, pour toi.
Ouais. Ouais, ouais.
Et du coup, avant de te consacrer pleinement à ton métier de comédienne, donc tu as fait des études d'ingénieur, tu as un peu travaillé en tant qu'ingénieur?
Non.
Non, même pas.
Bah, j'ai fait 2 stages, quoi.
Et suite à ça, t'as fait donc un grand virage en décidant de faire du jeu et t'es devenue une déserteuse, comme on dit. C'est comme ça qu'on appelle les jeunes diplômés des grandes écoles qui décident de faire autre chose et d'éloigner ces carrières confortables. Comment ce virage s'est imposé à toi ?
Ah ben, aussi pas très original, mais le Covid, hein.
T'en étais où, toi, pendant le Covid ?
Bah, en fait, c'était du coup fin de 4e année pour moi. Donc, il me restait les quelques mois entre mars et juillet. Et après, 5e année, du coup, la 5e année à l'INSA, c'est 6 mois de cours et 6 mois de stage. Ah oui, en plus, non, c'est même pas ça, parce que du coup, quatrième année, j'avais déjà un stage de 3 mois. Donc en fait, le Covid est tombé vraiment quasi fin des cours et je devais partir en stage. Et ça nous. En plus, c'est vraiment un souvenir un peu traumatique. L'annonce de la fermeture des universités, etc., elle est tombée sur la dernière de notre dernière représentation avec tous les gens de théâtre études.
De votre pièce annuelle, du coup ?
De notre pièce annuelle, exactement. Du coup, le 12 mars, je crois que c'était le 12 mars 2020. Et ouais, on avait fait 3 représentations et on savait que c'était vraiment la dernière pièce qu'on allait faire tous ensemble parce qu'après, tout le monde allait partir, etc. Il y en a qui restent, il y en a qui partent. Et le directeur des humanités, du coup, de l'INSA est venu nous dire en personne, vous n'allez pas jouer ce soir, de genre une heure avant le spectacle. Et ouais, 30 minutes après, il y avait les annonces qui disaient lundi, les écoles seront fermées, on sera tous confinés.
Oh, c'est une scène de film, ça.
Ouais. Mais du coup, ce qui était hyper beau, c'est qu'on a quand même joué, mais en cercle fermé, enfin, il n'y avait pas de public. On a appelé du coup une asso sur le campus qui filme, donc La Mouette, et ils nous ont fait un live.
C'est génial, ça.
Et on a fait un live sur YouTube.
C'est excellent.
Du coup, on a tous appelé nos parents en mode regardez. Parce que moi, mes parents habitent loin, donc ils ne sont jamais venus voir les pièces. Donc,
vous avez pu un peu transformer ça, c'est chouette.
Voilà. Et après ça, du coup, Covid. J'ai fait mes 3 mois de stage, je devais les faire à l'étranger, je suis restée en France et en fait c'était un calvaire. Genre, vraiment, j'ai des souvenirs de moi qui rentrais le soir et qui pleurait et j'appelais mes potes, je me disais mais je vais pas y retourner, je comprends pas, ça n'a aucun sens. Et j'ai tenu.
C'était quoi toi ta spécialité ? T'es en ingénierie ?
Moi j'étais en biotechnologie, une bioscience. Et voilà. Et après, on est reparti sur la 5A avec ça revient en cours, puis en fait redistanciel, puis recours, puis redistanciel. Et puis c'est la dernière année, donc tu te dis, bah, de toute façon, quoi d'autre ? J'avais des copains qui avaient déjà bifurqué, qui disaient, bah, il n'y a pas de travail. Du coup, tu te dis, bah, ça n'a pas l'air hyper malin quand même
de changer maintenant.
De partir, de bifurquer. Et puis j'ai fait mon dernier stage de 6 mois. Je suis restée sur le campus, j'ai fait de la recherche et là j'ai dit bah en fait c'est pas possible, je fais une dépression quoi. J'étais enfermée dans mon petit appartement, je pouvais quasiment pas aller dans les bureaux, j'étais beaucoup en distanciel et du coup j'ai dit bah je vais y crever je pense si je fais ça toute ma vie. Donc il y a un peu ce truc de la question qui se pose, c'est est-ce que je commence et je capitalise un peu, je récupère de l'argent et comme ça, bah, au moins je serai plus solide sur mes appuis parce que c'est quand même un métier qui demande beaucoup de ressources. Et moi, en l'occurrence, j'en étais en tel niveau de saturation que je me suis dit, je suis pas sûre. Parce qu'il y avait l'autre aspect qui est aussi, quand tu commences, c'est difficile de quitter le confort. Mais bon, voilà. Du coup, je me suis dit, autant y aller maintenant. Parce que bon...
C'était une évidence que si tu quittais l'ingénierie, c'était pour être comédienne.
Ah oui. Bah oui, ça me paraissait... Enfin, j'avais aucune autre idée de ce que je pouvais faire, pour le coup. Et ça, c'est le truc qui m'a donné l'énergie dont j'avais besoin pour faire mes 5 années d'études.
Parce que cette section-là, elle te permettait de vivre plein d'autres choses super chouettes à côté.
Complètement. Ouais, parce qu'il n'y a pas que la section. Bah, du coup, c'est encore une fois plein de rencontres. Et des opportunités de fou. Enfin, on a une salle sur le campus qui est hallucinante. Maintenant que je suis à l'extérieur, je suis genre, oh là là, cette salle est juste trop bien.
Et comment t'as réussi à arriver à être justement assez sûre de toi et à tenir le cap en te disant que, ok, t'allais dire au revoir à ce diplôme qui te permettait d'avoir une vie confortable et tout. En plus, post-Covid, dans un moment où la culture, c'était pas, bon, c'est pas forcément très glorieux aujourd'hui, mais... À l'époque, c'était pas simple non plus.
C'est vrai que ça s'annonçait pas fameux. Mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit a posteriori, waouh, quel courage. Mais pour moi, c'était pas une question de courage. Enfin, le courage, ça aurait été d'y rester dans l'ingénierie parce que c'était une torture. Vraiment, pour moi, c'était une torture. Alors, du coup, je pense que ça a été très compliqué de. Moi, c'était un travail à faire plus sur. Mes blocages mentaux à moi internes de en fait, c'est pas grave, je peux y aller, j'ai pas échoué. Et du coup, j'ai bifurqué un peu en prenant des chemins de traverse. Et j'ai fait un an après l'INSA, j'ai fait un service civique dans une compagnie où j'ai fait de l'admin, parce que ça me paraissait aussi un peu rassurant. C'était le mi-chemin qui me paraissait le moins bancal. Et du coup, je pense que cette année-là, elle était extrêmement précieuse, parce qu'en plus, je suis partie de Lyon, où j'étais là depuis 5 ans. Je suis retournée vers l'ouest, vers ma famille, etc., en me disant, bon, il faut peut-être que je temporise un peu. Et du coup, ouais, c'est à la fois une certitude et à la fois un combat permanent, mais dans lequel je suis encore sur la légitimité, sur plein de choses, quoi. Donc, il n'y a pas eu de grand virage pour moi.
Et ce phénomène un peu justement de désertion, comment tu l'observes, toi ? Tu en as beaucoup autour de toi ou quel regard tu... Enfin, parce que c'est un phénomène dont on parle, j'ai l'impression, de plus en plus. En 2022, il y avait les élèves de AgroParisTech qui avaient fait un peu... qui avaient un peu fait scandale parce qu'ils avaient un peu bouleversé leur remise de diplôme en disant qu'eux, ils n'allaient pas faire ça. On commence à en parler pas mal parce que ça prend un peu plus d'ampleur. Toi, tu fais partie totalement de ce phénomène-là.
Ah, complètement. Ouais, complètement. Moi, j'ai l'impression que dans notre promo, justement, INSA, l'année où on est sorti, on a été nombreuses à vouloir ne même pas commencer, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de mi-chemin, quoi. On n'a pas voulu taffer dans l'ingé. Du coup, je sais pas si c'est une sensation ou une réalité, mais en tout cas, moi, dans mon entourage, on est beaucoup. Ouais. Et c'est à la fois une nécessité et à la fois des gens qui sont allés au bout, parce que je l'ai vécu aussi comme une grande désillusion, et je pense qu'il y en a pas mal.
Toi, tu croyais au début que ça allait ?
Oui, en vrai, oui, parce que le problème, c'est pas les matières en elles-mêmes, quoi. C'est moi, la bio, ça m'intéresse toujours. Et je pense que, ouais, dans mon entourage proche, il y a plusieurs personnes pour qui c'est quand même un peu une tristesse de pas pouvoir travailler avec ces domaines-là qui les intéressent.
Ces compétences que vous avez développées à fond aussi.
Ouais, c'est quand même 5 ans d'études, quoi. Mais en fait, le métro, boulot, dodo, impossible, le fonctionnement des entreprises, globalement le système, hein, il faut qu'on en arrive là. Le capitalisme, c'est nul.
Mais du coup, pour toi, c'est plus, ça va au-delà de j'aime beaucoup le théâtre, donc je veux y aller, c'est un rejet du système classique auquel tu te destines au départ, quoi.
Ouais, clairement. Oui, j'ai juste fait 2 expériences de 3 et 6 mois, et dans les deux, je me suis dit, il y a une trop grande dissociation. Je ne peux pas faire semblant de travailler de 8h à 18h en étant sereine et rentrer chez moi et dire bon, je vais faire du théâtre puisque c'est ma passion.
Il est 19h30.
Il est 19h30, j'ai le droit maintenant. Et voir tous les gens autour de moi aussi, du coup, dans ces entreprises-là qui sont là-dedans depuis des années et qui vivent un truc et te disent mais c'est une réalité parallèle, je ne comprends pas ce qui se passe.
Parce que tu as des gens dans ton entourage qui sont dans cette vie assez classique.
Oui.
Tu trouves bien un fossé entre les deux ou...
Pareil, je parle des gens qui sont proches de moi, mais moi j'ai l'impression que mes proches sont conscients de cette dissociation et ça les rend malheureux. Mais en même temps, l'autre option est tellement drastique, tellement difficile à vivre que ça ne devient pas une option, quoi. Donc c'est un peu j'ai un peu cette impression là, quoi. Il y a ce côté soit tu arrives à supporter le côté un peu je vais mettre un peu un pêle-mêle, mais de hiérarchie, de contraintes horaires, de petites choses qui font que les entreprises tournent parce que t'aimes ce que tu fais. Soit c'est complètement intolérable et du coup tu bascules de l'autre côté. J'ai l'impression que tout le monde est un peu sur ce spectre à différents niveaux en fonction
tout le monde a sa limite du tolérable un peu.
Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est à un moment tu fais des concessions sur des choses, quoi.
Et toi, t'as réussi à trouver ce que tu cherchais au-delà d'avoir fui ce que tu ne voulais pas?
C'est, je pense, toujours une question parce que Il y a aussi un côté où moi, la routine m'angoisse. Donc, là, je suis pas du tout. J'ai pas de routine quotidienne, j'ai pas de routine hebdomadaire ou quoi que ce soit. Et en même temps, il y a quand même un système qui se met en place dans. Parce que ça reste aussi très carré et très. Et très codifié, les milieux du spectacle vivant et du cinéma. Donc, en fait, il faut quand même rentrer dans des rails et faire lancer des machines. Ça demande énormément d'énergie. Et du coup, il y a une question quand même qui se pose de est-ce que tu veux faire de l'art parce que c'est la créativité qui t'intéresse et c'est vraiment le côté de sortir des choses un peu brutes, un peu spontanées. Et en même temps, il y a le côté, est-ce que tu veux rentrer dans l'industrie? Est-ce que tu veux faire ton trou là-dedans? Et l'impression que tu ne peux pas faire l'un sans l'autre, quelque part, si tu veux en vivre. Donc, voilà, il y a toujours cette question qui se pose de à quel moment ça va devenir trop compliqué à gérer d'avoir ce côté administratif, logistique, qui prend trop de place sur le créatif. Du coup, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place depuis, notamment depuis que j'ai l'intermittence, mais ça aide. Mais du coup, je me pose déjà la question de ce sera quoi après quand ça va être trop dur et trop fatigant et est-ce que j'arriverai à retrouver ce truc? Parce que du coup, ce que je disais par rapport aux rencontres et au fait que le jeu en lui-même, c'est génial, mais ce qui me plaît, c'est les gens avec qui je le fais. Du coup, je me dis peut-être qu'un jour, je trouverai des gens avec qui je me sens bien et avec qui je pourrais faire quelque chose professionnellement qui m'attire aussi. Enfin, voilà. Donc là, je pense qu'à l'instant T, j'ai trouvé ma place.
Et cette professionnalisation, justement, quand tu as commencé, tu étais en amateur. Tu n'étais évidemment pas rémunéré pour ça, etc. Et puis quand tu es amateur, tu apportes aussi ta vie de personne lambda, entre guillemets, dans ton art. Et en te professionnalisant, donc au-delà du fait de pouvoir consacrer ton temps et de vivre de ça, est-ce que tu observes vraiment une différence dans le regard que tu portes dans ton art, quand c'est ton travail ce qui te fait vivre, ou quand tu le fais en amateur comme simple loisir?
C'est une bonne question, ça. Je suis pas sûre. La première réponse qui me vient, c'est pas vraiment, parce que je compare du coup ce qu'on a créé. Après la formation et ce qu'on a pu créer, par exemple, quand on était à l'INSA. Et il y avait. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu cette volonté d'aller loin, quoi. De ne pas se contenter de dire on fait un. Parce que, bon, c'est un peu réducteur, mais l'amateur, il y a un peu ce truc de. On est là pour s'amuser, du coup, on veut passer un bon moment et. Et essayer de rester dans des trucs peut-être plus légers dans la pratique, on va dire, pas forcément dans le fond, mais dans la pratique.
D'être moins exigeant.
Ouais. Alors que pour le coup, dans les créations à l'INSA, que ce soit en théâtre étude ou en les créations qu'on faisait entre nous, on allait loin, quoi. On allait loin. Moi, j'ai le souvenir de répète où on finit à 2h, on reprend à 8h et en fait, on fait ça toutes les vacances scolaires et puis après, on a cours. Donc, moi, j'ai jamais vu ça comme un passe-temps qui ne doit pas en demander trop parce que du coup, il y avait cette envie d'aller vraiment au bout du bout et de tirer les idées et peut-être ce truc d'exigence. Je ne sais pas si c'est le bon mot parce que je sais juste pas les mêmes objectifs et les mêmes attentes, mais du coup, j'ai pas l'impression de voir une différence, si ce n'est ce truc dont je parlais d'administratif et logistique.
Mais en même temps, effectivement, quand c'est pas ton travail, t'as de l'administratif et la logistique dans ton travail ou dans ta formation, donc ça change. Du coup, la professionnalisation, toi, tu l'as vu plutôt comme une contrainte ou une liberté qui t'a ouvert des portes? Enfin, évidemment, ça t'a ouvert des portes, mais vraiment dans la création.
Dans la création, non. C'était pas une contrainte. En fait, c'est toujours ce truc de... Nous, je pense que notre force là-dedans, ça a été de réussir à garder une spontanéité, une simplicité dans la création et dans vraiment le purement artistique. Ce qui fait qu'on s'est éclaté à créer le spectacle, qu'on s'est vraiment lâché, qu'on s'est fait plaisir, qu'on a essayé de ne pas se mettre de limites. Mais c'est vraiment autour, quand il faut trouver où est-ce qu'on répète, qui on invite... et comprendre ce qui est attendu pour que ça marche dans tel endroit, mais des fois ça marche plus dans tel autre. Enfin, c'est vraiment tout ce qui est autour. Et nous, on a eu, j'ai envie de dire, cette chance du coup, parce que on a gardé la naïveté un peu du début de bah, c'est pas grave, on y va, puis on verra bien. Et aujourd'hui.
Oui, t'étais aussi à une période de la vie, très concrètement, t'avais pas d'enfant, t'avais aussi des choses qui font que tu peut peut-être plus avoir cette liberté de se dire bon, au pire je serais peut-être pas très bien payée, mais c'est le début qui est peut-être pas la même chose pour d'autres professionnels.
Oui, clairement.
Même si on peut être professionnel sans avoir d'enfant, bien sûr.
Merci de le préciser.
C'était pas une injonction.
Non, mais ouais. Mais après, maintenant, oui, je le vois et c'est là où je commence déjà à me poser des questions, c'est que bah, dans les prochaines créations, on se dit il faut qu'on fasse ça dans les règles, dans les clous. Et du coup, bah, ça va demander forcément d'autres contraintes au moment de la création et à voir comment ça se passe, quoi.
Un peu avant, tu nous as dit, par exemple, que tu avais fait de l'administration. Tu avais aussi de la technique. Donc, un peu.
Un mini chouïa. C'est gentil. Je sais ce que c'est une pizza, par exemple.
Une pizza, c'est un type de projecteur. Je l'ai appris il y a 20 minutes. Parce que je ne comprenais pas une blague. Du coup, tu m'as perdu. Non, oui, donc tu as fait de la technique, tu as fait de l'administration, du jeu et de la mise en scène aussi. Là, dans la partie purement théâtre. Du coup, tu as un peu vu tous les côtés. Est-ce que tu trouves que le fait d'avoir vu toutes ces fonctions, même si quand on gère une compagnie, on fait forcément plein d'administration, comment ça influe sur tes missions de jeu actuelles de voir un peu les autres côtés?
Ça dépend. Waouh. Ça. Le côté mise en scène, ça aide énormément et en même temps ça dessert parce que donc là notre spectacle particulièrement on est trois en jeu et on est trois
le spectacle de la compagnie Inclassable l'ours
fait.
on parlera plus tard,
on est trois en jeu et trois en mise en scène donc forcément à la
c'est
fois...
les trois mêmes personnes,
ouais, tout à fait. Parce que je fais des signes avec mes doigts mais vous les voyez pas. Donc il y a un côté où c'est agréable de se plonger dans le spectacle parce qu'on l'a écrit, parce qu'on sait où on va, parce que voilà. Et en même temps, bah, on est tout le temps en train de se regarder jouer. Parce que du coup c'est « Ah bah tiens, elle a fait ça alors qu'elle n'aurait pas dû. Ah peut-être on devrait recaler tel truc. » Donc voilà, tu pars dans ta tête un peu vite. Mais en même temps, c'est quand même hyper intéressant d'avoir une vision globale de l'équilibre de plateau, de machin, de trucs que t'es censé sentir de l'intérieur, mais on va dire que c'est toujours plus facile de le voir un peu de l'extérieur avant de le ressentir, quoi. Et je pense que là où ça m'aide le plus, c'est en ciné, parce que pour le coup j'ai pas de formation de cinéma et du coup de passer par différents pôles, ça me permet de, bah, de comprendre quoi, de comprendre comment ça marche, de comprendre ce qui est attendu là où personne ne me l'a jamais expliqué, quoi. Donc ça m'aide d'être derrière la caméra pour mieux comprendre ce qui va marcher ou pas devant la caméra. Et c'est des choses qu'on voit souvent, par exemple chez des gens qui ont pas trop fait de ciné, des trucs bêtes, mais où on dit ah mais non mais il faut que tu tournes vraiment beaucoup plus parce qu'en fait, et puis la personne te dit bah oui mais c'est pas logique parce que j'étais pas dans ce sens là tout à l'heure, on dit mais on s'en fiche, l'image ça se voit pas, on veut juste une jolie image. Et du coup moi de comprendre ça de l'extérieur, je me dis quand je suis de l'intérieur, bah pose pas de questions. Les gens savent ce qu'ils font, c'est pas ton taf. Et du coup ça m'a beaucoup aidé. Et en admin, je pense que ça m'aide plutôt sur quand je vois des créations extérieur d'autres personnes, bah du coup de me dire ah oui non mais je vois à peu près le, et j'arrive à tirer un peu tous les fils, donc ça donne une vision vraiment plus globale.
Du coup tu fais du cinéma comme tu viens de nous le dire, et comment on passe de l'un à l'autre, parce que c'est quand même très différent, enfin quand pour le commun des mortels qui fait pas de jeu que je suis, je me dis c'est pareil on joue, mais en fait ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même manière de jouer et le même travail. Comment t'arrives à jongler de l'un à l'autre ?
Ben, pour moi, c'est hyper complémentaire, du coup, parce que quand j'ai commencé à faire du ciné, c'était pareil pour plutôt pour le kiff de créer des choses, etc. Et du coup, bah, j'avais un jeu beaucoup plus théâtral qui me voilà. À revoir, qui m'insupporte, mais bon, c'est un autre sujet. Et du coup, c'est de capter un peu mieux les subtilités, etc. Et en fait, ça alimente beaucoup mon jeu au théâtre maintenant, parce que bah ouais, en fait, c'est une, je vois la vie comme plein de spectres maintenant. Il n'y a plus de pôle isolé, vous voyez. En fait, pour moi, c'est aussi un spectre.
Vous voyez pas ce qu'il est en train de faire, des schémas avec ses mains hyper complexes qui n'aident pas du tout la logique.
Non, mais il y a un peu un truc où, oui, les puristes du milieu vont vouloir isoler l'un de l'autre en disant ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il y a un vrai truc de dédain, genre, pour les gens du cinéma vers les gens du théâtre. Et alors, je vous parle même pas de l'art de rue. Mais en fait, je vois pourquoi, parce que quand tu comprends pas ce qui est attendu au ciné et que tu pars de l'art de rue, bah effectivement, tu hurles. C'est normal, on t'a appris ça. Mais en vrai, il y a un truc qui vient nourrir dans les deux sens, quoi. Il y a quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose d'hyper complémentaire sur la manière de jouer, la manière d'aborder la construction d'un personnage ou la mise en scène de manière générale, que ce soit au ciné ou au théâtre. Les dynamiques, les relations, en fait, ça parle de la même chose. Ça parle de l'humain, ça parle de nos liens entre nous. Et du coup, bah, c'est juste différentes manières de le faire, de le représenter. Mais tout est imbriqué les uns dans les autres pour moi. Et c'est pour ça que j'aime bien, par exemple, le cinéma qui va utiliser un jeu un peu plus théâtral, un peu plus grandiloquent, un peu fort comme ça. Parce que je me dis, bah, en fait... Le théâtre, il apporte un côté beaucoup moins naturaliste que le cinéma. Mais le cinéma, il veut se donner un air de documentaire en permanence, alors que c'est de la fiction. Du coup, bah, des fois, replacer un peu de théâtralité dans le cinéma, bah, ça te rappelle que en fait, c'est aussi un art et que tu peux faire des trucs de fou.
Toi, tu dois vraiment faire les deux.
Ouais.
T'as pas envie de choisir?
Non.
On ne choisit pas.
Mais je choisis pas, j'attends de voir s'il y a des gens qui vont me cracher dessus.
En ce moment, alors on enregistre cette interview, il y a ta première apparition au ciné qui est dans les salles en ce moment.
Il est vrai.
Et du coup, donc, tu as fondé la compagnie Inclassable. Tu as monté une pièce jeune public, et pas que jeune public, qui s'appelle L'Ours. Si ça vous intéresse plus en détail, on a interviewé il y a un an et demi Margot et Noémie déjà, dans le cadre d'une de leurs représentations. Où on s'intéressait précisément du coup à cette pièce, à l'écriture et à sa portée, on vous le mettra quelque part. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parle cette pièce ?
Bien sûr. L'Ours, c'est une adaptation de l'ancêtre du conte de Peau d'Âne. Donc, c'est un conte qui a été écrit par Giambattista Basile avant Peau d'Âne, parce qu'en fait, Perrault a repris des contes qu'il a trouvés à droite à gauche. Et dans cette version-là, du coup, elle se cache pas sous une peau d'âne pour s'enfuir, elle se transforme en ours, à savoir, elle fuit son père qui veut l'épouser. Donc voilà. Nous, on avait cette volonté de faire un spectacle à la base jeune public, en se disant, en vrai, c'est un public qui nous plaît énormément parce qu'il est très très exigeant. Il y a un côté chez les enfants qui est implacable. Bon, vraiment, tu peux pas faire un truc incohérent, tu peux pas, ça marche pas. Il te pointe du doigt, il te crie dessus au milieu du spectacle, ça marche pas.
Sauf que vous le faites en art de rue en plus.
Ouais. Et du coup, on a commencé à l'écrire comme ça, en partant aussi de cette volonté de déconstruire les contes. En disant, typiquement, Peau d'Âne, c'est un conte que beaucoup de gens ont oublié parce que, notamment, c'est pas un Disney. Donc, on l'a beaucoup moins vu. Et pourtant, on l'a tous lu, je pense. On a tous et toutes lu, entendu ce conte à un moment dans notre vie. Et il est passé comme normal, comme un espèce de socle de notre éducation. Alors qu'en fait, ça parle d'inceste. Et on s'est dit, bah, vas-y, on va juste raconter ça dans le spectacle. On va raconter nous qui se disons, ah, on va raconter Peau d'Âne, c'est sympa. Et au fur et à mesure qu'on raconte Peau d'Âne, on se dit, c'est pas du tout sympa, c'est horrible. Donc le spectacle, c'est ça. C'est trois comédiennes qui veulent raconter une histoire et qui, au fur et à mesure, se rendent compte que c'est problématique, que ça va pas du tout, on peut pas raconter ça. Et donc elles vont, petit à petit, tirer d'autres fils, essayer de voir comment elles peuvent raconter l'histoire, garder ce conte, mais en modifiant des petites choses, en se disant que, en fait, tout le monde fait ça. Les contes de base, ils étaient transmis à l'oral et chacun les reprenait un peu à leur sauce. Et nous, à un moment, bah, on les a figés. Et depuis, on a l'impression que c'est...
Walt Disney est arrivé.
Ouais. Mais Perrault, déjà, de base, en vrai.
Bah, c'est l'écrit.
Anderson, c'est l'écrit, quoi. Et du coup, de dire, c'était un peu juste de se remettre le truc de genre, hey, mais en fait, on peut raconter ce qu'on veut. Pourquoi on raconterait des trucs comme ça? C'est nul.
Et les messages que vous souhaitiez faire passer ou la vision que vous en aviez pendant la création, est-ce qu'il y a une différence entre le message recherché et sa réception par le public depuis bientôt... Ça fait 2 ans que vous la jouez, cette pièce, ouais?
Ouais. La première en avril 2024, donc à peu près. Non, globalement, le message est reçu exactement comme on l'avait imaginé au début. C'est tellement agréable d'avoir des gens qui viennent te voir en disant « Waouh, mais c'est incroyable !» Du coup, on avait oublié Podane, on avait oublié que ça parlait d'inceste. Et en plus, on a ri, c'était trop bien.
Parce que c'est un spectacle qui, du coup, est beaucoup jeune public, joué en rue à Disney Son Enfant, mais c'est un spectacle très adulte aussi. Il y a plein de visions qui sont très... Il y a Elio qui acquiesce.
Qui hoche la tête.
Il y a une vraie réception aussi adulte.
Oui, bah parce que on parle des contes en disant c'est pour les enfants, nanana. Mais en fait, tous les adultes ont été des enfants. Et c'est aussi...
Mais la question de l'inceste, c'est une question pour tout le monde.
Exactement. Non, mais il y a aussi ce truc de... Tout le monde dit, ouais, il faut faire des trucs pour les enfants, parce que ça, pour l'éducation, pour machin, c'est intéressant de leur faire aborder des sujets, etc. Mais en fait, il faut des adultes pour accompagner ça, dans tous les cas. Du coup, les spectacles pour enfants, il y a toujours des adultes. Et souvent, c'est les parents, les responsables, enfin voilà, quoi. Et du coup, bah, c'est se dire, c'est intéressant que les parents soient touchés, que les adultes soient touchés pour que derrière il y ait quelque chose qui soit discuté. Parce que c'est aussi notre volonté à nous, genre, bah, le spectacle il dit clairement réfléchissez à ce que vous voulez raconter et ne vous bornez pas à ce qui est écrit dans les livres. Et du coup, pour ça, bah, il faut que les enfants ils soient accompagnés de gens qui aient envie de les accompagner sur ces sujets-là. Donc c'est important que ça touche tout le monde pour nous, parce que justement ce truc là de tu peux pas dire à un enfant genre ah super ton spectacle,
t'as bien appris des trucs. Il faut que ça touche aussi
il faut que ça touche un adulte derrière. Et en vrai, moi j'en ai vu plusieurs des spectacles jeunes publics où du coup tu te retrouves, t'as l'impression d'être pris au piège, parce que ça c'est vraiment genre bas de plafond et tu te dis waouh. c'est chiant d'accompagner ses enfants voir des spectacles jeunes publics régulièrement quand même.
Et comment tu t'adaptes justement au jeune public? Comment on va faire une pièce qui va pour le vieux public, pour le jeune public?
Bah, j'allais continuer sur le fait que ça nous a été reproché là depuis qu'on est un peu en train de rentrer dans le côté plus institutionnel, on va se dire, du théâtre, parce que à la base, nous on avait mis le spectacle accessible à partir de 5 ans, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes, etc. Donc en dessous de 5 ans, ils ne comprennent pas. Et c'est long, une heure, quand on comprend pas. Et plus on rencontre des gens dans le milieu un peu installés, plus on nous dit 5 ans, c'est trop jeune. En fait, il faudrait mettre au moins 7 ans. Il y en a qui nous ont dit voire 10 ans. Donc, ça reste du jeune public. Mais en fait, il y a un truc très policé dans la création du spectacle vivant adressé au jeune public, qui est très codifié, qui a t'as vraiment plein de petites cases à cocher pour rentrer là-dedans. Et nous, on est arrivés très bourrins. Voilà. Donc, je pense que nous, clairement, ce qui nous fait défaut, c'est qu'on n'a pas testé le spectacle spécifique. Enfin, en fait, on l'a joué en rue très vite, on l'a joué vite dans plein d'endroits. Et il y avait du jeune public, mais on n'a pas eu de retour spécifique à ça. Donc en gros...
Parce que les enfants de 5 ans viennent rarement faire un retour détaillé et critique.
Voilà. Donc en fait, c'est des familles qui nous disent « Ah, c'est super !» Des enfants qui sont hyper joyeux parce qu'ils ont vu un ours. Enfin, voilà. C'est des retours globalement positifs.
Il n'y a pas de vrai ours dans la pièce.
Il n'y a pas de vrai ours. Aucun animal n'a été maltraité.
C'est toujours un ours.
Et globalement, les gens rient et ça fait plaisir. Mais pour s'inscrire institutionnellement, genre pour faire des scolaires, etc., il faut cocher plus de cases que ça. Donc nous, ça nous a été un peu reproché.
De quelle case tu parles ?
Bah, c'est un peu vague, hein. J'aimerais pouvoir vous répondre, mais j'aurais aimé comprendre les réponses qu'on m'a données. Mais globalement, les gens nous ont dit « Ah, c'est pas tout à fait prêt pour du... » Ouais, en gros, primaire, c'est sûr que c'est pas tout à fait accepté, mais on n'arrive pas à comprendre exactement ce qui
dérange. C'est le message qui est porté qui embête ?
Non, je pense pas. Je pense que c'est la manière.
C'est qu'il y a beaucoup de textes et beaucoup de...
Après, on n'est pas très fine dans le propos. Et y a un, je pense qu'il y a un côté où c'est trop brut. C'est, comme il y a des thématiques de...
Vous dites ouvertement ce qui se passe dans cette pièce, que c'est de l'inceste, que c'est de la violence. Vous dites aux enfants qu'il ne faut pas accepter ça et que le consentement, c'est important.
Exactement. Mais du coup, je pense que c'est trop brut et que maintenant, ils attendent des spectacles et des artistes quelque chose de beaucoup plus enrobé, quoi. Un truc un peu plus adapté à un public qui n'est pas trop capable de recevoir ça en plein dans la poire, on va dire. Parce que, et ça, c'est aussi des égos qu'on a eu d'autres compagnies qui traitent d'inceste dans leur spectacle, qui l'ont fait en scolaire. Et apparemment, après la représentation, il y a eu trois gamins qui sont venus en disant « Ouais, mais moi, il s'est passé ça chez moi. » Et en fait, il faut mettre en place des choses pour accueillir ça. Tu ne peux pas balancer des trucs et dire genre « Allez, débrouillez-vous !» Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est que c'est bien de dire les choses et en même temps, il faut trouver un cadre pour
en discuter après.
Ouais, c'est ça.
Et toi, t'en penses quoi du coup du fait que c'est un peu... On n'attend pas ça de vous.
Moi, je suis toujours tiraillée parce qu'on attend beaucoup de choses des artistes. Genre, mais en fait, trouvez des solutions, vous. C'est vous, l'éducation nationale. Donc, non, mais en vrai, je comprends. Et je trouve ça, en effet, logique. Et en même temps, je me dis, c'est pour ça qu'on fait une pièce tout public, accessible dès 7 ans. C'est parce qu'à un moment... Il y a aussi des adultes référents qui vont être un peu partout et qui sont censés être là pour encadrer. Donc, je suis tiraillée. Voilà, je ne sais pas. Je pense que ce serait bien. Et en même temps, quand on joue en rue, en tout public, on peut pas mettre un... Enfin, ça va être compliqué d'installer un pôle pour accueillir la parole. C'est par ici. Et il me semble que ce n'est pas tout à fait notre rôle. Et en même temps, une fois qu'on a... Voilà... pelleter le
faut
caca,
que tu que
il faut quelqu'un, le...
Oui, du coup, t'as l'impression qu'on attend de vous d'apporter le problème et d'exposer aux enfants les solutions.
Mmh.
Et toi, t'aimerais que ce soit les personnes qui vous programment qui y pensent.
Ouais. Après, on nous a dit c'est pas forcément à vous de gérer ça. Vous pouvez trouver, par exemple, des assos qui seraient OK de venir, nanana. Est-ce que t'as un peu en mode, oui. C'est beaucoup de travail, encore une fois, mais oui, on peut le faire, on peut envisager ça, donnez-nous l'argent et puis on y réfléchira.
Mais oui, j'entends. Je pense qu'il y a eu un peu une volonté de rendre la pièce plus polie sur certains aspects dans ces retours-là. Et à la fois, ce côté-là, c'est important de ne pas non plus mettre plein la figure aux gens et les laisser sans rien derrière, quoi. Parce que quand il y a vraiment des choses qui ressortent, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense que ça, c'est le petit truc où justement, on avait envie de faire du jeune public, mais on ne s'est pas posé beaucoup de questions sur comment ça allait être reçu et comment on allait gérer le fait d'aborder ces thématiques-là. Donc voilà.
Et quand t'entends ces retours-là, tu te dis que... Qu'est-ce que tu penses du coup du message que vous portez ? T'as l'impression que c'est utile ou au contraire tu te dis on n'y arrivera pas parce qu'on n'arrive pas à le programmer à des scolaires et...
C'est un peu... Ok, on a encore le temps pour le programmer à des scolaires. C'est intéressant d'avoir les retours de tous ces gens-là, de la DRAC, des salles, jeunes publics, des trucs, parce qu'on se dit qu'il suffirait probablement de pas grand-chose pour que ça soit, pour que ce soit accepté. Il faut qu'on trouve un moyen de rentrer dans le moule sans casser notre spectacle. C'est tout l'enjeu. Donc, tu peux répéter ta question ?
Je te demandais si... est-ce que tu avais l'impression que du coup, votre action, elle était vertueuse, elle avançait ? Ou au contraire, ça, tu te dis que bon, à quoi bon ?
Non, pas du tout. Je ne me suis jamais dit à quoi bon avec ce spectacle. On l'a joué plus de 30 fois.
Je ne veux pas que tu te dises ça. Je l'ai beaucoup vu et je l'aime toujours autant.
Elio hoche la tête.
Non, je me lasse pas de ce spectacle et je me lasse pas des réactions des gens parce qu'en fait, la volonté, c'est aussi de faire un spectacle qui fait rire en famille. Quelque chose qui sont aussi intéressantes, je pense, à mettre en avant. Et ça parle à... Pour nous, de notre point de vue, ça parle à tout le monde, même à des enfants de 5 ans qui l'ont vu parce que juste ça les fait rire parce qu'on est dans un théâtre très explosif, ça dure une heure, on s'arrête pas, on court dans tous les sens, on change de personnage, machin. Jusqu'aux adultes où on fait des petites blagues un peu plus spécifiques avec des références que où les enfants ne vont pas comprendre, mais en fait ils ont d'autres choses sur lesquelles s'accrocher.
Oui, c'est pas embêtant, enfin, c'est des choses très subtiles ou de ouais, une phrase qui...
C'est ça. Et du coup, je me dis, bah, en fait, si le message passe pas avec ce spectacle-là à tel moment-là, peut-être que la prochaine fois qu'ils entendront parler de ce sujet, ce sera la bonne. Ou peut-être pas. Peut-être ce sera la fois d'après. Mais en fait, c'est pas grave si ça touche pas les gens pile au bon endroit. Enfin, notre volonté, c'est pas de faire une morale ou de
Non, justement, vous êtes plutôt contre les morales des contes. Ouais.
On est contre la morale. C'est un enjeu énorme sur notre spectacle où il y a plein de choses qui bougent au fur et à mesure et à chaque fois on se dit « Ah, là c'est trop moralisateur, ça va pas parce qu'on peut pas dire aux gens « Vous devez pas écouter les contes, vous devez faire ça à la place. » Ça marche pas, tu vois, le concept est complètement biaisé. Donc ouais, je me dis le but principal c'est que les gens passent un bon moment. Si possible, en ayant un peu ce truc de... Pas forcément j'ai appris quelque chose, mais là, la volonté de... Ah oui, le conte de Peau d'Âne, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai que ça parle de ça. Ah oui, c'est un peu cringe.
Et puis des fois aussi... Enfin là, c'est assez personnel, mais il y a des contes ou des histoires qu'on adore, mais on se dit, c'est pas ouf de la regarder. C'est quand même Peau d'Âne. Bon, c'est quand même vraiment de la violence.
Ouais.
Et c'est chouette de pouvoir profiter, parce que c'est quand même une histoire. Voilà, on a grandi avec, hyper romancée, cette histoire de la princesse qui part...
Ouais.
À travers les champs et qui rencontre sa marraine, c'est quand même tout un univers avec lequel on a grandi et pouvoir ouais. aussi avoir des endroits où on peut accéder à ces histoires-là, mais plus en accord avec ses valeurs
oui.
et avec ce vers quoi on veut tendre, c'est quand même aussi agréable, même si c'est des éléments qu'on a déjà, qu'on peut.
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai grandi avec Cendrillon, par exemple. Je l'ai regardé en boucle. Et je me dis, ah, bah, en vrai, il n'y a pas tout à jeter à la poubelle, je pense. Les petites souris qui parlent, par exemple, c'est super. Ça s'appelle Gus Gus, d'ailleurs.
Non, oui, c'est sûr que c'est chouette aussi d'avoir tout ça. Et pourquoi toi, quel sens t'arrives à trouver pour toi de faire passer ces messages-là ? Quand tu envisages la suite de votre travail dans la compagnie ou toi, ton travail de jeu plus global.
C'est-à-dire, quel sens j'arrive à mettre
dedans. Est-ce que tu arrives à te dire que, ok, je fais de l'art pour faire passer des messages oui. ou juste pour moi me faire plaisir?
Jamais de la vie.
Je ne prends aucun plaisir.
Ça fait partie de mes gros enjeux, mais de vie en fait. C'est que je suis incapable de faire quelque chose à répétition pendant des années. Qui n'a pas de sens pour moi. Et...
C'est vrai que le refus de l'ingénierie était très clair.
Mais ça me rend malade, littéralement. Quoi. Je veux dire, il y a des gens, ils arrivent à vivre avec ça pendant 40 ans. Moi, pas. Moi, 2 heures. C'est terrible. Je pense pas que ce soit vraiment mais bien.
C'est
bien.
L'indignation, c'est un grand moteur. Hein.
Et
comme disait Stéphane Hessel. C'est pas moi qui l'ai inventé.
Indignez-vous. Oui. Mais j'ai découvert ça, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi dans ma formation de théâtre après l'INSA, où j'étais un an intensif, presque 24 sur 24 dans la formation. Et mon formateur est très, très clairvoyant. Vraiment, il lit à travers les gens, c'est fascinant. Mais du coup, il finit par me dire que le sens de la justice, c'était une des valeurs vraiment cardinales pour moi, que je ne supporte pas l'injustice. J'étais en mode... Ah oui, d'accord, mais c'est pour ça. Et donc, moi, j'ai été engagée très vite dans plein de domaines différents, à l'INSA notamment, où j'ai fait des assos de théâtre, mais j'ai aussi participé au mouvement climat, etc., où j'étais vraiment dans l'organisation, dans les noyaux durs, parce que je me vois pas être passive sur des sujets aussi importants, quoi. Et le féminisme et tout ce qui touche à ouais, la position des femmes et leur, leur place dans la société, c'est un truc qui m'a toujours, toujours traversé. D'autant plus de mon immense syndrome de l'imposteur, où j'ai toujours l'impression d'être une fraude après avoir fait 5 ans d'INSA et de ne pas avoir mérité ma place dans cette école. Du coup, je me bats pour les autres, c'est pas grave. Perdu pour perdu. Mais ouais, c'est un truc qui, c'est un truc que je peux pas nier en fait. C'est tellement fort chez moi que je peux pas faire autrement que aller dans le sens de.
Donc le théâtre, la culture, le jeu, c'est plutôt un moyen pour toi de traverser ça.
Ouais, clairement. Ça me permet de d'être aligné. C'est ce truc de dont je parlais de dissociation tout à l'heure. Je peux pas être en entreprise et faire 8h, 18h, un truc en me disant c'est pas grave.
T'as besoin de cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais.
Ouais.
Non, je crois que c'est sain.
C'est sain, mais c'est pas très rémunérateur.
Mais est-ce que t'arrives à voir quand même que la culture, c'est un bon moteur dans nos évolutions sociétales et dans notre monde qui s'effondre ? T'arrives à avoir cet espoir-là ?
C'est le meilleur. J'ai fait. On avait un devoir à rendre à l'INSA qui s'appelait le PPH, projet personnel en humanité, je crois, qui nous a prévenu, je crois, en première année, et on devait le rendre avant la cinquième année, à peu près. Donc on avait 5 ans pour le faire. Et le mien, ça a été vraiment... J'ai fait un bébé podcast où je parle de la force des récits dans la résilience. Du coup, j'ai essayé de mêler l'art et l'écologie et le féminisme. Et
après, tu réécris des contes. Tiens donc.
Est-ce que tout ça n'est pas très cohérent?
Tout est lié.
Et du coup, ouais, c'est un truc où je me suis toujours dit que les récits communs, tout ce qui fait société, en fait, pour moi, c'est la culture au sens très très large, bien sûr, parce que du coup, c'est tout le patrimoine culturel que chacun et chacune possède en fonction de l'endroit où elle est née, ou en fonction de où il a grandi, etc. Et du coup, c'est ça qui nous construit véritablement. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir... j'ai pas envie de dire faire bouger, parce que je pense que c'est déjà beaucoup, mais en tout cas, toucher les gens. Et il y a plein, plein, plein de manières différentes de le faire. Et c'est ça que je trouve incroyable. C'est pour ça que je touche un peu à tout, je pense.
Pour essayer de toucher plein de gens comme ça.
Ben oui, parce que chaque média a sa cible, même si j'aime pas le mot cible. À son public.
Là, toi, t'es au début de ta carrière, tu es encore très jeune, et t'évolues plutôt effectivement dans ton activité artistique avec des personnes de ta génération. Comment tu trouves que notre jeunesse se saisit de la création artistique ? Est-ce que toi aussi, tu te sens appartenir à ça, ou tu te sens
dissocié un peu ? Complètement. Complètement, et déjà, à l'INSA, via tout ce cercle qu'on avait de personnes théâtreuses, surtout... Et maintenant que je suis un peu plus dans le milieu, du coup, mes fréquentations ont changé. Donc, c'est des personnes qui sont intermittentes. Et il y a vraiment une volonté de... Ouais, il y a une volonté d'aller chercher ce qu'on a au fond de nous pour le donner, quoi. Sous pareil, encore une fois, sous plein de formes différentes, il y a toujours une part de nous qui ressort. Et ouais, je trouve ça super impressionnant... Moi, je suis un peu vieille maintenant. je suis la fin de la vingtaine. Donc, mais de voir, je rencontre plein de gens qui sont plus jeunes et qui ont 21, 22, 23 et qui sont pleins d'une fougue à sortir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, quoi. Et essayer de toucher par leur sensibilité, par leur. Par toutes ces choses qui les animent. Et j'adore, et c'est aussi une des choses qui me fait adorer la mise en scène et la réalisation, parce que c'est aussi un travail de mettre en commun toutes ces forces, et de leur donner une cible.
De créer le cadre pour laisser s'exprimer ça.
Ouais.
Trop chouette, c'est beau. T'as eu une époque dans laquelle t'aurais aimé vivre ?
Une époque ?
Ouais, qui n'est pas la tienne du coup. T'aurais aimé être jeune à quelle époque ?
Waouh, bah je crois que la nôtre, elle est quand même vachement bien. Hein. Je réfléchis. Enfin, j'ai une petite fascination pour l'époque victorienne, mais bon, c'est irrationnel. Les grandes jupes là, avec des cadres où tu peux pas respirer, j'adore.
Ça aurait été plus sûr d'être intermittente dans l'époque victorienne. Mm-hmm. Que...
Mais il faisait beaucoup de piano, il paraît.
Super.
Mais j'essaye d'apprendre le piano, alors peut-être que j'aurais fait plus de piano si j'étais née dans cette époque.
Il faisait beaucoup de piano, et bah top. Allons tous vivre dans l'école victorienne, l'époque victorienne. Est-ce qu'on arrive à la fin de ce podcast ? Ça fait très longtemps qu'on parle. Elio nous dit que ça va. Je t'ai demandé de préparer, comme à tous nos autres invités, une recommandation culturelle qui s'inspire ou qui traite de la jeunesse.
C'est beau.
Partage-nous tout ça.
Quelle transition. J'ai pensé à plein de choses, et notamment justement à ces personnes qui m'inspirent dans la vraie vie que je côtoie et que je connais, et ouais, qui sont pour moi des phares. Et en même temps, j'arrivais pas à savoir laquelle donner. Mais
tu peux en donner plusieurs.
En fait, il y a plein de gens autour de moi qui sont incroyables et je m'entoure de femmes en ce moment, et c'est beaucoup elles qui me font briller les yeux, quoi. Ça se dit pas, cette phrase? Si.
Elio a dit que oui. Ou les leurs?
Non, les miens. Mais Elio, il a dit que c'était bon, donc ça va.
J'ai l'impression que c'est pas bon, mais...
qui me mettent des étoiles dans les yeux.
Voilà.
Et qui ont créé des spectacles. Donc, moi, je pense à une amie à moi qui est chorégraphe et danseuse, qui a fait une école de comédie musicale, Marie-Lou Rodier, qui a créé son spectacle, qui l'a emmené à Aurillac, qui est d'une force et d'une douceur à la fois, que je trouve...
Il s'appelle comment, ce spectacle ?
Eh bah, ben, j'ai pas le nom. Je
Super,
suis vraiment une
merci.
Infâme personne. Je pensais à mes copines de l'impro, un milieu qui n'est pas du tout féminin, qui sont en train de lancer leur trio d'impro de femmes, les Amazones de l'impro qui étaient à Aurillac avec nous cet été. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et après, je me suis dit que quand même, ça pouvait être sympa de parler d'une artiste que j'écoute pas mal en ce moment, musicale du coup, qui remue des choses, je trouve, assez inattendues. Je ne sais pas si vous connaissez Sofia Isella.
Non, pas du tout.
Qui a passé beaucoup sur TikTok et qui a été connue pour ses vidéos de concerts. Et en fait, qui est une artiste, du coup, qui a, je crois, 21 ans. Non, peut-être plus. Je crois qu'elle est née en 2003.
22,
2005.
Alors.
Je ne sais plus. Je suis vraiment hyper renseignée. Mais bref, c'est une artiste qui prône un peu le sale. Et vous allez avoir regardé ses vidéos sur YouTube ou sur Insta ou sur TikTok ou le média que vous voulez. Et qui a vraiment des musiques, alors un peu gothique, indie pop. Elle a moi, je trouve qu'elle est vraiment dans la lignée de Billie Eilish sur le côté pop. Et en même temps, elle est très... Enfin, il y a un truc qui est très dissonant dans ce qu'elle fait, mais qui est à la fois hyper intéressant. Et du coup, c'est une femme qui est quand même très jeune, qui a un parti pris, une direction artistique dans ce qu'elle fait, qui est hyper fort et hyper à côté de vraiment ce qui est attendu par l'industrie, même si ça se libère un peu plus. Et elle a fait les premières parties de Taylor Swift. C'est ça que je trouve.
Ah oui, quand même.
Mais oui, quand même.
Moi, dans ma tête, là, tu me parlais de quelqu'un hyper indépendant qui fait des petits trucs dans son coin, mais c'est...
Mais j'ai découvert il n'y a pas si longtemps qu'elle faisait les premières parties de Taylor Swift. Je trouve ça dingue. Et j'adore ses textes, et j'adore ses instrus, et en même temps, elle me dérange. Mais je pense que c'est son but. C'est parce que justement, elle essaye de tirer un peu ses trucs.
C'est un peu l'inverse de Taylor Swift.
Oui, mais
c'est marrant, parce
c'est
là, de ce que tu dis, j'ai du mal à faire un lien, mais je vais aller écouter ça.
Et écoutez, parce que je suis encore au début de ma hype, donc j'y connais pas tant que ça, mais je découvre plein de trucs et je trouve que ça vaut le coup d'aller écouter ça.
C'est chouette, des artistes qui remuent un peu des choses.
Ouais, grave.
Est-ce que t'as envie d'avoir un petit mot de la fin ?
Merci pour les chips à la Yoli.
Même si t'as dit qu'elles n'étaient pas très bonnes.
C'est pas moi qui l'ai dit. Et pour le panda
on buvait du rooibos à 22h un dimanche soir, ouais, dans des superbes tasses où il y avait des petites figurines panda accrochées au-dessus. Et sauf que c'est difficile pour Margot de boire la fin du thé parce que le panda se coinçait dans son front. Voilà, on a vécu des choses aujourd'hui.
Ah oui, c'était fantastique.
Merci Margot de nous avoir fait confiance. Vous venez d'écouter un épisode du Tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. La partie technique de l'enregistrement a été enregistrée par Elio, le graphisme par Émile et l'écriture et la réalisation des podcasts par moi, Marwa. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur notre site internet qui a été développé par Zadig. On a aussi une newsletter parce que innover un peu, parce que pourquoi pas, on en a marre des réseaux sociaux qui appartiennent à des mauvais gens. En plus, on est développé supporté. Le support d'un site internet, j'ai aucune référence technique, il faut m'aider là. Le
héberger, c'est ça, oui, le mot.
Mais héberger par un organisme hyper vertueux de l'environnement et de notre monde, c'est important de soutenir Jean-Claude. Et on vous donne rendez-vous.
Vous aussi, vous êtes sur Jean-Claude.
Mais qui n'est pas sur Jean-Claude? Il faut aller sur Jean-Claude, je fais une petite pub, c'est vraiment super. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode, pour un nouveau tourbillon. Bonne soirée à tous. Ha ha ha.